Tchatch, le ravi, Radio Grenouille.
Bonjour à toutes et à tous, heureux de vous retrouver pour cette grande tchatch Le Ravi Radio Grenouille, une émission préparée avec Michel Guéraud et Rafi Amal. Aujourd'hui nous recevons une élue, une femme, ça fait longtemps, Sabine Bernasconi, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes maire UMP du 1-7, premier 7e arrondissement de Marseille, un arrondissement qui regroupe à peu près grosso modo 75 000 habitants, c'est ça?
Oui, c'est ça, tout à fait.
Donc une petite ville on va dire. Vous êtes également élue à la région, au département, voilà. Pardon, puisque vous avez en charge la délégation de la culture et ça c'est tout frais, nous en parlerons. Sabine Bernasconi, une tradition dans cette émission, c'est le portrait de l'invité, c'est Michel Guéraud qui s'y colle.
D'abord, apportons une précision importante pour tous ceux qui, apprenant que le maire des 1er et 7e arrondissements de Marseille était notre invité, ont aussitôt déposé un jour de RTT pour ne pas rater l'émission. Les appels au standard se multiplient, car les auditeurs s'étonnent de ne pas entendre rugir la voix tonitruante de Patrick Menucci. Mais réveillez-vous! Lisez plus souvent Le Ravi, Menucci, c'est fini, il a été battu dans sa mairie de secteur depuis plus d'un an déjà. Ce n'est pas tout. Permettez-moi, Rafi, de revenir rapidement sur les incidents qui viennent de se dérouler devant Radio Grenouille. De jeunes groupies ont tenté d'envahir ce studio, espérant arracher la chemise et une dédicace à Dominique Tian, l'homme au sourire aussi resplendissant que son patrimoine. Que ces demoiselles se ressaisissent et ravalent leur déception, c'est bien Tian qui a battu Patrick Menucci, mais c'est bien à vous, Sabine Bernasconi, à qui il a proposé, sitôt élu, de devenir à sa place le maire. Sabine Bernasconi, répétons-le haut et fort, vous êtes donc madame le maire d'un secteur qui s'étend des escaliers de la gare Saint-Charles jusqu'au beau quartier du Roucasse-Blanc en passant par la Canebière. Continuons notre œuvre pédagogique. Mesdames et messieurs les auditeurs de la friche de la Belle de Mai, toujours persuadés, oui, que Michel Peset est le monsieur culture du Conseil Général, il faut aussi vous réveiller. Déjà, cela fait des années que Peset, en disgrâce, avait été privé de sa délégation. Et puis Guérini, c'est fini. Le CG13, c'est Martine Vassal désormais. Et à qui a-t-elle choisi comme deuxième vice-présidente chargée de la culture? Sabine Bernasconi. Est-ce d'ailleurs pour prendre en main l'armada des artistes au chômage, toujours à la recherche des effets bénéfiques de la capitale européenne de la culture? Car jusqu'à présent, c'est le dossier de l'emploi que vous avez toujours suivi. Dès 2001, en mairie de Marseille, à la demande de Jean-Claude Gaudin, puis à MPM, avec une vice-présidence. Mère de trois enfants, diplômée d'une maîtrise en sciences sociales et développement local, vous étiez déjà, avant d'entrer en politique, chargée de mission emploi dans une structure visant à réinsérer les personnes en difficulté. Vous voilà, en tout cas, jeune quadra, moins de 15 ans après votre premier mandat, au premier rang des personnalités qui incarnent le renouveau de la droite marseillaise. Et la droite, elle a la baraka. Elle dirige aujourd'hui la ville, l'agglo, le département et la région pourraient devenir UMP en décembre prochain. Sabine Bernasconi, bientôt présidente du conseil régional. Là, s'il vous plaît, Christian Estrosi est déjà dans la course.
Sabine Bernasconi, un mot sur ce portrait à la sauce Ravi.
Oui, un mot volontiers. C'est la manière dont vous présentez les choses, c'est que, ben voilà, une femme a valu deux hommes aujourd'hui. Ça me fait plaisir de l'entendre, autant sur le secteur que sur la délégation au Conseil général. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, je suis très heureuse d'avoir fait partie de faire partie de cette nouvelle génération d'élus qui, autour de Martine Vassal, espère donner un renouveau à cette institution départementale ô combien importante ici dans les Bouches-du-Rhône, puisque c'est le deuxième budget de France et qu'il y a d'énormes sujets à traiter sur les compétences du département, et que même si aujourd'hui je vais m'occuper de culture, je reste très attachée à tout ce qui concerne les sujets qui touchent le social, qui touchent l'emploi, bien évidemment. Je suis toujours présidente du PLI de Marseille, et effectivement, la question que je me pose et que je poserai, c'est aussi comment la culture n'est pas toujours synonyme de chômage pour ceux qui la composent, pour ces acteurs. Bien heureusement, la culture, au contraire, est un fabuleux vecteur de développement économique.
Alors, Sabine Bernasconi, tout à l'heure, Michel Guéraud, en présentation, disait que la droite à la baraka.
La droite travaille beaucoup. Je ne sais pas si c'est une question de chance.
La droite travaille beaucoup. Juste un mot d'abord sur les changements à venir à droite. L'UMP va se transformer en républicain. Vous êtes d'accord, vous, avec
ça ? Il semblerait que l'UMP se transforme en républicain. Ça sera une propos. Enfin, les journalistes en savent plus que les militants.
Et vous, ça UMP. Vous séduit, ça ?
Moi, écoutez, c'est pas le nom qui compte. Alors, je vais peut-être vous étonner,
mais l'UMP disparaît.
Moi, oui, le nom populaire va disparaître. Bon, c'est une nouvelle page.
Vous êtes en adéquation là à ce moment-là.
Pour l'UMP, moi, j'aime l'étiquette UMP, cette marque, parce que elle a une âme, cette étiquette. Elle représente vraiment un parti politique qui est composé de militants, d'hommes de terrain, qui est un parti de proximité, qui a des permanences partout dans ses circonscriptions. Et ça, de toute façon, qu'on s'appelle UMP, qu'on s'appelle Républicain ou Tartempion, cette âme-là, personne ne nous la volera. Mmh. Voilà, c'est la force de l'UMP.
La référence à la culture américaine, au parti républicain, oui, oui. Vous l'assumez
peut-être, mais en même temps, la République française, elle fait aussi référence dans le monde entier.
Répondez-nous, vous adhérez à ce nom ou pas ?
Aux républicains ? Oui, pourquoi pas ?
Vous êtes passé
tout le monde est républicain. Non, je trouve que le socle est large.
Je vous réponds
que pour moi, c'est pas très important à titre personnel, parce que l'UMP, c'est beaucoup plus qu'un nom. Mais vraiment, il faut connaître comment ça fonctionne, ce parti politique, pour vous dire que si c'est un parti qui est fort, si c'est un parti qui aujourd'hui, vous dites la droite à la baraka, mais je vous assure que la droite a avant tout beaucoup de militants, de personnes de terrain qui sont des fidèles, qui ont vécu des moments difficiles, qui sont toujours là, qui aujourd'hui vivent des meilleurs moments. Et tous les élus, une fois qu'on est élu, on reste avant tout des militants. C'est une âme, c'est une culture, voilà.
Donc, Michel, on va venir à Marseille puis au CG, mais là, effectivement, les candidats au régional, les régionales, c'est pas tout de suite, c'est en décembre, viennent d'être nommés. Il y a eu alors toute cette mise en scène autour du clan Le Pen, Jean-Marie, Marion, donc ça sera Marion Maréchal Le Pen, la candidate de l'extrême droite du Front National en PACA, et face à elle, donc le choix aussi de Christian Estrosi, plutôt que de Renaud Muselier pour conduire la liste UMP, puis le PS a aussi choisi son candidat. Alors, vous pensez que la région est à portée de main et vous craignez cette candidature de Marion Maréchal Le Pen ?
Vous avez raison de parler de mise en scène, de spectacle. C'est vrai que nous continuons dans la saga Le Pen, avec la saga de la famille, avec d'abord le père, la fille, la petite fille maintenant. Bon, écoutez, ça, c'est des mises en scène dont la famille Le Pen a bien l'habitude et dont les médias se délectent quand même de savoir ce qui se passe chez les Le Pen. Ça ne passe jamais inaperçu. Pour autant, ce qui est inquiétant, c'est que quelle que soit la face de la pièce, les discours sont toujours les mêmes, toujours aussi terrifiants de la part du grand-père, notamment. Et bien évidemment, je pense que cette candidature au régional de Christian Estrosi place l'UMP au bon niveau, parce que c'est quelqu'un qui a une stature nationale, c'est quelqu'un qui est très ancré dans son territoire, qui a une forte notoriété. Pour nous, c'est un bon candidat. Il a été choisi effectivement parmi plusieurs candidatures, mais celle de Renaud Muselier, que je connais bien, puisque moi je suis rentrée en politique avec Renaud Muselier, auprès de Renaud Muselier, est aussi une excellente candidature pour emmener le département des Bouches-du-Rhône à la victoire. Nous espérons aujourd'hui gagner la région PACA.
Le choix d'Estrosi plutôt que de Muselier, est-ce que ça ne dit pas que le centre finalement du pouvoir et de la dynamique au niveau de la droite dans la région s'est déplacé vers Nice ? Est-ce que ça ne dit pas ça aussi ? Est-ce que... On a hésité entre Ciotti et Estrosi.
On a hésité aussi avec Renaud Muselier, qui est une personne de premier plan et qui mènera notre liste au niveau départemental. Vous savez, si on veut gagner, il ne faut pas opposer les territoires les uns aux autres. Nous, nous présentons une équipe, nous travaillons en collectif. Nous avons eu aussi pendant des années à connaître les divisions, les partis éclatés, mais nous l'avons formé, cette UMP qui rassemble tous les les partis politiques de droite. Aujourd'hui, nous allons plus loin, puisque regardez au départemental, nous étions alliés dès le premier tour avec nos cousins de l'UDI. Le MoDem au niveau national reprend un peu un penchant vers l'UMP et effectivement je ne vois pas pourquoi aujourd'hui on se poserait la question dans ces termes-là, est-ce que le pouvoir est en train de glisser? Non, c'est l'UMP rassemblée qui est plus forte.
On ne glisse pas, plutôt que de prendre une métaphore géographique, on revient au vieux courant, RPR, démocratie chrétienne, non, enfin que...
Bah, vous voyez que le même si l'UMP change de nom, sa philosophie ne changera pas. Au contraire, d'ailleurs, puisque vous, si vous voulez qu'on parle du nom, on peut en parler, mais ce choix des républicains, c'est en soi un choix de rassemblement. Qui en France ne se sent pas républicain ?
Un mot peut-être sur, sans empiéter sur les futures thématiques qui vont être traitées lors de ces régionales, on est sûr qu'on va parler d'immigration. Là-dessus, la droite va lorgner un peu sur son extrême droite, elle va devenir un peu plus...
Alors ça, la question de l'immigration, ce n'est pas un sujet d'extrême droite. C'est un vrai sujet de fond, de société, de misère. C'est un vrai sujet humain et je ne laisserai pas dire, oui, mais je laisserai pas dire que c'est un sujet d'extrême droite parce que ça le caricature. Or, les conséquences de l'immigration aujourd'hui, elles sont dramatiques. Dramatiques d'abord pour le plan humain. Et soit nous arrivons tous, les élus, en pleine responsabilité, à regarder ces problèmes en
comment
face
vous allez vous démarquer,
et à demander de les traiter.
Par exemple, de Le Pen qui va traiter forcément ce sujet-là. Ça va
mais
être
qu'est-ce qu'ils vont dire, les Le Pen ? Mais est-ce que vous avez vu ce qu'ils proposent ? Est-ce que c'est bien sérieux ? On va fermer les frontières de la France ? Est-ce que vous pensez que c'est possible ? On va sortir de l'euro ? On va se barricader ? Mais enfin, c'est impensable. C'est absolument pas crédible. Moi, j'en ai marre d'être comparée à ces propositions d'extrême droite qui sont incroyables.
De quelle droite vous appartenez ? Parce que les gens vous découvrent. Alors, il y a eu une forme de parrainage. Vous avez été député suppléant de Dominique Tian, qu'on connaît bien, et plutôt sur des positions de... C'est la droite populaire, hein, c'est une droite assez décomplexée, à laquelle on a pu reprocher, il y a des débats au sein de l'UMP, à laquelle on a pu reprocher d'aller trop, justement, sur le terrain du Front National, en s'adressant trop à ses électeurs et en allant trop sur ces thématiques. Est-ce que vous pensez que la droite a raison de montrer un peu ses muscles et de parler d'immigration, de parler de sécurité.
Montrer ses muscles que de parler d'immigration et de parler de sécurité et d'assurer la possibilité à nos concitoyens de pouvoir vivre au mieux sur leur territoire en meilleure sérénité possible. Enfin, ce n'est pas montrer ses muscles. C'est pas possible de traiter ces sujets de cette manière-là. Moi, j'appartiens pas à la droite populaire. Voilà, je suis très proche de Dominique Tian. J'ai travaillé avec lui. Moi, j'arrive du RPR. J'ai plutôt une connotation sociale. Je m'intéresse plutôt aux sujets qui touchent à l'humain. Pour autant, j'ai travaillé et je continue à travailler avec Dominique Tian, qui, lui, effectivement, appartient au courant de la droite populaire. Ce qui nous rassemble tous, c'est effectivement que l'on porte les mêmes valeurs, qu'on a le même regard. Alors, qui veut être un peu plus autoritaire, un peu plus... ce sont, dans un même groupe politique, des avis qui peuvent... c'est un curseur qui se déplace. Globalement, on est tous d'accord pour dire que le sujet de l'immigration doit être traité, que effectivement sur la question de la sécurité, alors que la police fait un travail remarquable dans nos rues quand même, les problèmes des peines et des punitions se posent aujourd'hui en France, clairement. C'est des sujets sur lesquels peut-être il faudrait qu'on puisse débattre, mais là encore, en toute sérénité, sans être taxé d'extrémistes dès lors que les discours se durcissent un peu. Mais vous savez que nos concitoyens ont besoin aussi d'avoir des cadres de référence et eux-mêmes de comprendre les sanctions. Et ces sanctions, il faut qu'elles soient proportionnées. Déjà, il faut qu'elles existent. Il faut bien évidemment que tout le monde trouve les bons repères.
Michel. Alors on se rapproche un peu de Marseille, mais on reste dans la même thématique. Par exemple, sur un dossier précis qui est celui de la sécurité, Jean-Claude Gaudin, qui a très longtemps été hostile au fait d'armer la police municipale vient de se laisser convaincre que c'était utile. Est-ce que ça, c'est un indicateur aussi d'une forme de durcissement des positions de la droite républicaine ?
Non, ce n'est pas un durcissement de position de la droite en général. Les temps qui changent. C'est une adaptation à des problématiques de sécurité qui, aujourd'hui, sont différentes de celles d'hier, avec maintenant aussi des risques d'attentats, en tout cas des risques ressentis. On ne sait pas si, à quel niveau il se place, le niveau de ces risques-là, mais c'est des policiers qui l'ont réclamé et qui feront usage pour mieux se défendre, pour être mieux respectés aujourd'hui, à l'heure où il y a des armes un peu partout trouvées dans les appartements. C'est pas la droite qui se durcit que de penser que la police municipale doit être armée dans la deuxième ville de France.
Sabine Bernasconi, une bavure et qui mettrait un peu le fond de poudre à Marseille.
Il y a un an de formation d'abord avant que la police puisse porter ses armes. Une bavure, ça peut arriver à Marseille comme ailleurs. Voilà. Et si on ne fait rien parce qu'on a peur des choses qui peuvent se passer, alors on ne fait pas de politique.
Tout à l'heure, Michel évoquait les différentes droites. Il va y avoir des primaires, d'ailleurs, chose nouvelle, au sein de l'UMP. Vous avez dit tout à l'heure que vous étiez venu avec Renaud Muselier en politique, RPR. Aujourd'hui, il y a deux candidats, il y en a beaucoup plus, mais enfin, il y en a deux qui émergent. C'est Nicolas Sarkozy, l'ancien président de la République, et Alain Juppé.
Ah, RPR. Je croyais que vous alliez dire Bruno Le Maire.
Et Alain Juppé, créateur de l'UMP, en fait. Ouais. Vous êtes, votre cœur balance Sarkozy, Juppé, ou un troisième candidat, Le Maire, par exemple?
Ah, ben voilà, parce que posez-moi la question du troisième homme, quand même.
Celui qui a aucune chance de gagner.
Vous l'avez accueilli à Marseille.
Celui qui a aucune chance de gagner, eh ben, je ne suis pas si sûre que ça, et peut-être celui qui aura la chance de devenir Premier ministre.
Ah, c'est un investissement que vous faites sur le long terme?
C'est pas un investissement, c'est qu'il est d'une génération qui aujourd'hui porte une manière nouvelle de faire de la politique, qui est un gros travailleur, qui est quelqu'un qui a un très bon niveau, mais qui à la fois est très proche du terrain. Il sillonne la France là depuis plus d'un an à l'écoute, et quand vous discutez avec lui, c'est pas un sachant, c'est pas quelqu'un qui va imposer tout de suite ses idées. Au contraire, on discute, on échange, il demande lui-même à rencontrer des personnes de catégories socio-professionnelles différentes. Donc j'aime cette manière de faire de la politique.
Il va en rester que deux, finalement.
Il va rester Juppé et Sarkozy. Vous êtes sûr de ça?
Imaginons. Si on suit les sondages aujourd'hui à l'heure T, il resterait Juppé et Sarkozy.
Alors s'il reste Juppé et Sarkozy, moi je me rallierai à Sarkozy.
Sarkozy.
Oui.
Sarkozienne. Michel?
Je reviens à Marseille. Donc vous êtes en mairie de secteur. Alors on entend souvent dire des maires de secteur que le pouvoir n'est pas vraiment là, c'est la mairie centrale. Tout de même, vos marges de manœuvre existent et ça fait un an. C'est l'heure des bilans, déjà, premier bilan.
Premier.
Les dossiers ne s'avancent pas comme ça. Les feuillants, par exemple, ça va rester.
Si c'était un dossier
ruine.
Mairie de secteur, tiens, les feuillants.
C'est au cœur de ce secteur-là.
Oui.
Et c'est la question de la Canebière et de son avenir.
C'est un gros dossier, la Canebière. Hein. C'est le quatrième mandat de Jean-Claude Gaudin. Et le problème, c'est que la situation ne change pas beaucoup. La zone est toujours aussi sinistrée. Hein.
Eh bien, vous savez, moi qui suis sur la Canebière tous les jours, parce que la mairie de secteur, elle est située sur la Canebière. Eh bien, je trouve que cette Canebière, elle est beaucoup mieux que l'idée qu'on s'en fait encore aujourd'hui à Marseille.
Parce
elle
que vous
a
la
bien
voyez du
évolué.
Fauteuil de maire?
Non, pas du tout, parce que je la vois tous les jours. Je la regarde en marchant dans les rues, en rencontrant des habitants, en rencontrant des associations. Et je vous assure qu'il y a un foisonnement sur la Canebière et une conviction que ça peut être le plus bel endroit du monde, à la fois pour ceux qui y habitent et qui portent beaucoup de projets. Il y a des collectifs qui se sont créés, qui sont très intéressants, qui ont réfléchi, qui vous apportent des propositions. Alors, et je vous assure qu'ils sont vraiment attachants.
Agissant par méthode, vous avez dit que vous avez rencontré des collectifs, il y a des associations. En arrivant à la mairie...
Des CIQ qui sont très impliqués.
En arrivant à la mairie, première chose que l'on fait normalement quand on change majorité, on demande un audit. Est-ce que vous l'avez fait?
Oui.
Qu'est-ce que vous avez trouvé dans cet audit?
J'ai trouvé la confirmation de ce que je savais déjà, parce que j'ai mené une opposition à Patrick Menucci sur l'ensemble des dossiers où j'ai été extrêmement porté un regard très très précis, très minutieux sur ce qui était fait dans ce secteur ou pas fait d'ailleurs, et sur la manière dont c'était fait. Et cet audit a confirmé des choix politiques que je n'aurais pas fait. Ça, c'est clair. Et il m'a permis, en tant qu'outil d'aide à la décision, de pouvoir très vite changer de braquet.
D'accord, vous n'avez rien trouvé d'autre ?
Et je dois vous dire aussi que parmi les thématiques que nous avons auditées, effectivement, certaines méritent d'être approfondies.
Lesquelles ?
Certaines dépenses de la mairie de secteur qui méritent d'être approfondies au regard de l'utilité qui en ont fait. Qui en a été faite.
C'est-à-dire ?
Alors, c'est-à-dire, est-ce qu'une mairie de secteur est un tremplin pour mener une carrière, se lancer dans une carrière nationale, ou est-ce qu'elle doit être au service des habitants d'abord ?
D'accord. Il y a eu des abus financiers, il y a eu des choses comme ça
Il y a des sommes qui sont surprenantes.
Des sommes qui vont vers le monde associatif ou des sommes qui sont utilisées ?
Même pas.
Parce qu'à la limite,
quand ça va vers le monde associatif, on peut dire que c'est utilisé, enfin on l'espère, mais c'est même pas ça.
On parle parce que Marseille est une ville où on parle beaucoup, hein, c'est les Bouches-du-Rhône après tout. On parle de dépenses au niveau de la restauration, enfin des choses qui sont un peu compliquées. C'est le cas ? Vous avez trouvé des dépenses frais de restaurant,
Il y avait des, j'ai trouvé des choses, mais j'ai trouvé la même chose que ce qui avait été déjà publié dans la presse. Donc ça, pour le coup, les journalistes étaient mieux renseignés que personne. Non, vraiment sur des choix politiques et sur clairement des sommes qui moi me paraissent colossales, qui étaient investies plutôt à la gloire du personnage plutôt qu'au service des habitants.
Donc vous allez faire des choix
financiers. Je les ai faits déjà quand vous me parliez de bilan.
Le monde associatif, est-ce que des associations vont être mieux choisies ? Est-ce que va redistribuer différemment ? Comment ça va se passer ?
C'est pas comme ça que ça fonctionne. Les mairies de secteur n'ont pas le droit de donner des subventions aux associations. Donc là, il y a des partenariats, bien évidemment, mais c'est des partenariats de bonne volonté. C'est pas des partenariats financiers pour le coup. Hein, donc on n'est pas sur ce sujet-là.
Michel,
quel serait le... Vous parlez de réorientation, de changement de braquet. S'il fallait, comme ça, donner un ou deux dossiers dans lesquels vous avez déjà pu réorienter ou initier quelque chose qui n'existait pas, ou alors au contraire stopper quelque chose, ça serait quoi pour faire simple et clair ?
J'ai utilisé, par exemple, toutes les lignes de communication qui étaient conséquentes. Je les ai réutilisés pour l'animation des rues, par exemple, ce qui m'a permis à Noël de faire de l'animation tournée vers les enfants pour retrouver un peu de cette magie de Noël, ce qui m'a permis il y a quelques jours d'organiser des beaux carnavals dans le premier arrondissement d'abord, dans le 7e ensuite, avec des parades, des choses qui permettent à tous de partager des moments de convivialité, des moments de fête. C'est ça un quartier. Un quartier, c'est une âme.
Ah ben justement, cette âme est en péril un petit peu. On en a parlé tout à l'heure rapidement de la Canebière. Comment faire pour sortir de la Canebière, de cette léthargie ? Il y a deux quartiers paupérisés, d'un côté Belzunce, de l'autre Noailles. La Canebière au milieu, il y a très peu d'entreprises qui s'y sont installées. Il y a beaucoup de petits commerces. La nuit, c'est très peu fréquenté. Qu'est-ce que vous allez faire ? Qu'est-ce que vous envisagez de faire pour aider cette Canebière ?
Quel est le potentiel de la Canebière, d'après vous ? C'est quoi sa marque ? C'est quoi ce qui se dégage aujourd'hui de la Canebière, mais qui, moi, me saute aux yeux et qui n'a pas l'air de vous sauter aux yeux, franchement.
On est plutôt de mauvaise foi, on va vous dire la saleté, la prostitution, les commerces qui ferment.
Non, pas de prostituée sur la Canebière, c'est dans les petites rues autour.
La monoculture des commerces, parce qu'il y a énormément de snacks et uniquement ça. Les fameux contrats avec les commerçants qui devaient ouvrir le dimanche.
J'ai compris que vous donnez votre langue au chat. Alors, la Canebière, c'est une vraie route de culture. Regardez, depuis l'opéra, quand vous passez par la Canebière et que vous y trouvez le théâtre du gymnase qui maintenant est associé au théâtre des Bernardines, quand vous y trouvez avant ça d'ailleurs ce quartier de Noailles, on reviendra dessus parce que c'est quand même un quartier qui est extraordinaire et qui a une marque très très forte dans l'identité du centre-ville, et que vous remontez encore et que vous passez par l'Odéon et que vous traversez, qu'il y a ce kiosque à musique qui doit reprendre tout son sens, mais à cet endroit-là, il y aura certainement un cinéma dont vous voyez encore un équipement culturel, et que vous remontez par le boulevard Longchamp, où vous voyez un foisonnement de petites galeries pour arriver au palais Longchamp, où il y a des musées, et que à l'arrière aussi, vous y trouvez des musées, des théâtres qui sont en rénovation, des théâtres privés, des théâtres publics, et si après vous faites le grand écart jusqu'au Mucem, vous voyez bien qu'il se dégage une identité forte en matière de culture sur cette Canebière, et je suis tellement convaincue.
Ça, c'est vu d'un drone, la réalité.
C'est sur du quoi?
C'est vu d'un drone, la réalité est complètement différente.
Mais c'est pas vrai, c'est pas la réalité. Ah, non, c'est la réalité. C'est vous qui transformez la réalité. Parce que les théâtres, ils fonctionnent, parce que les programmations, elles existent. Bah, c'est la réalité, parce que moi, la semaine prochaine, j'emmène les enfants du premier arrondissement visiter les coulisses de ces théâtres. Nous avons passé des conventions entre la mairie de secteur et les théâtres pour emmener les petits de nos centres aérés pour aller voir ces théâtres, pour qu'ils aient envie d'y rentrer. Pas pour qu'ils se disent, comme vous qui n'avez pas l'air d'y rentrer souvent dans cela, je vais vous inviter.
Bien sûr.
Prenons juste deux dossiers, hein, pour être un peu plus concret. Les Feuillants, le premier, Noailles, Les Feuillants. Ça fait un moment qu'on voit ces palissades, on voit une promesse de début de travaux, on ne voit rien avancer. Est-ce que c'est réaliste, un hôtel de luxe au milieu dans ce cadre-là? Est-ce que c'est un mirage? Ou est-ce que ça va prendre forme?
Surtout pas. Alors moi, je les ai reçus, les investisseurs. Alors oui,
c'est pour quand?
Oui, c'est une bonne idée, parce que ça continue la rénovation de la Canebière. C'est une attente, parce que c'est des investisseurs privés, c'est pas des philanthropes, c'est pas une association, c'est pas une résidence pour des performances ou je sais pas trop quoi, c'est rien qui va être financé par de l'argent public, donc à un moment donné il faudra aussi que ce soit un peu rentable, et j'imagine que ceux qui vont investir, ils ont déjà opéré tous ces calculs, et donc il y a un besoin à Marseille, et c'est un endroit qui est mythique, qui est stratégique, qui est connu dans le monde entier, la Canebière, donc c'est un endroit qui attire, à la fois c'est terrible, c'est le paradoxe de la Canebière, parce que ça attire, tous les Marseillais, même au-delà, ils sont très attachés, et à la fois c'est repoussant, parce que des fois on a un peu des images un peu négatives, un peu péjoratives de cet endroit, mais en plus, je répète, pour y être tous les jours, la Canebière, c'est beaucoup mieux que l'image que l'on s'en fait. En tout cas, ça va mieux.
Vous pensez que les touristes fortunés, de leur fenêtre, vont regarder le trafic de cigarettes à la sauvette?
Alors vous savez ce qu'on a,
ça fait un an. La saleté auprès de leur porte.
On va continuer à dire que l'hôtel des Feuillants participe à la rénovation urbaine, et on en est très content. Et ensuite, il se place au cœur d'un quartier qui est extraordinaire, le quartier de Noailles, sur lequel depuis... Mais oui, c'est extraordinaire, Noailles.
Vous utilisez depuis tout à l'heure pour les auditeurs que des litotes.
Mais c'est quoi les litotes?
Il y a un trafic de cigarettes.
Oui, c'est vrai, il reste un trafic de cigarettes.
Il y a un trafic de drogue.
Ça fait un an.
Et vous voulez mettre un hôtel 4 étoiles à cet endroit-là.
Oui,
alors concrètement, qu'est-ce que vous allez faire?
Parce que vous croyez que le trafic de cigarettes, le marché de la misère, sur lequel nous avons déjà fait de gros progrès, ils sont installés à Noailles, à Vitam Eternam.
Alors qu'est-ce que vous comptez faire?
Ça, c'est pas ma vision des choses, pas du tout.
C'est la question.
Oui, il va pouvoir venir des touristes et un hôtel 4 étoiles, parce que les choses évoluent, elles évoluent dans le bon sens.
Qu'est-ce que vous comptez faire?
Non, pas ce que je compte, qu'est-ce que je fais?
Qu'est-ce que
nous avons commencé à faire? Moi, j'ai réuni tout de suite, quand je suis arrivée à la mairie de secteur, les différents acteurs qui portent des responsabilités dans les sujets qui, tous les jours, enquiquinent la vie des gens et sur lesquels tout le monde se renvoie la balle. La propreté, c'est pas moi, c'est la communauté urbaine, et dans la communauté urbaine, c'est pas tel service.
Là, la communauté urbaine associe les mairies de secteur.
Oui, c'est bien, il était temps. Donc, sur la question de la propreté, sur la question de la sécurité, nous avons travaillé avec, sur la question du social d'ailleurs aussi, j'ai demandé à tout le monde de se mettre autour de la table, et nous avons créé une première en France. Alors, c'est pas ce que je compte faire, ça c'est fait. C'est le premier conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance territoriale. C'est le premier en France qui a été créé. Comment ça fonctionne? Depuis le mois de juin l'année dernière, toutes les semaines, il y a une visite hebdomadaire, donc je répète, de tous les services associés de police, municipale, nationale, police de l'air et des frontières, parce qu'il y a un problème de clandestins à Noailles et il faut aussi avoir le courage de le considérer pour pouvoir le traiter. D'hygiène, bien évidemment, parce qu'il y a un problème d'hygiène dans certains établissements du premier arrondissement, mais en particulier de Noailles. Des emplacements, parce qu'effectivement, il y a un marché qui s'étale un peu, les commerçants s'étalent un peu aussi, donc il faut respecter des règles, même à Noailles. Le service, alors je ne sais plus où j'en suis, mais propreté, bien évidemment, le service des commerces, puisqu'il y a aussi de l'animation à mettre en place, sans oublier les associations qui sont au cœur du quartier, comme Destination Famille ou le Daikiling, que nous avons associés. Et dimanche, nous faisons un verdissement des rues, notamment de la rue d'Aubagne, ça c'est avec les habitants. Et si vous saviez que depuis un an, aujourd'hui, allez-y, il n'y a plus de marché de la misère à Noailles. Il n'y en a plus. Allez-y, je vois que vous me roncez des yeux parce que vous croyez qu'il y en a encore.
Non, il y en a toujours un.
Non, il n'y a plus le marché de la misère. Il reste encore des cigarettes parce que le dimanche, on n'a pas les mêmes forces. Voilà, sachez-le, moi je le reconnais. Nous manquons de moyens pour le week-end, ça viendra. Mais les progrès sont forts, vraiment visibles. Demandez aux habitants.
La Grande Tchatch, l'émission du Ravi sur Radio Grenouille.
La Grande Tchatch, le Ravi avec aujourd'hui l'élu maire du 1-7, Sabine Bernasconi, Michel Guéraud.
À Noailles, ce qu'il n'y a plus non plus, c'est d'associations faisant office de centre social. Il y avait le Milpat qui a disparu. Mmh. Et puis, alors qu'il y a un besoin, clairement, dans ce quartier. D'accord. Aussi, on parle de sécurité, mais il y a un besoin aussi de prise en charge du social.
On ne l'a pas.
Il n'y a pas. Alors là, est-ce qu'il y a une stratégie? Est-ce que vous avez enclencher quelque chose, une réflexion, oui. Un objectif?
Oui, parce que je regrette que cette association elle n'ait pas pu être maintenue. Et très sincèrement, au-delà du travail qui était fait, ça a été un problème de gestion qui a fait que au bout de quelques années de difficultés de gestion, les partenaires financiers se sont désengagés. Il y a quand même à Noailles, c'est pas le désert social non plus, puisque je citais des associations tout à l'heure qui travaillent avec les familles, avec les enfants, avec les adolescents. Nous-mêmes, nous travaillons sur un projet avec la Soleam qui gère du patrimoine dans le centre-ville qui appartient à la ville de Marseille sur la possibilité d'aménager l'île au ventre, le domaine ventre, pardon, qui paraît bien placé pour y recevoir des activités liées au social en particulier. Et il y a aussi l'IFAC qui est au cours Julien, qui s'étend, qui étend ses activités sur Noailles intramuros, j'allais dire, parce que c'est malheureux, mais c'est vrai que quand on est à Noailles, souvent, les habitants ont du mal à en sortir et veulent aiment bien trouver tous les services, notamment les services public à côté de chez eux. Pour le coup, il y a quand même encore une bonne prise en charge de la question sociale à Noailles. C'est indispensable. Moi, tout à l'heure, quand je vous parlais du premier conseil de sécurité territoriale, nous avons associé tout de suite, et ça, moi, j'y ai tenu, le volet social. C'était pas possible autrement. Parce que quand on voit un territoire qui est en train de s'améliorer, vraiment, allez voir, en toute objectivité, c'est en train de s'améliorer au niveau de la propreté, au niveau de la sécurité. Il faut reprendre il faut reprendre en main la rue. Il faut reprendre de la place. Il faut que les habitants y retrouvent un intérêt avec de l'animation, avec beaucoup de choses.
À échéance, vous avez promis aux investisseurs qu'il n'y aurait plus de
marché. Moi, je n'ai rien promis du tout aux investisseurs.
Ah,
j'ai promis aux habitants du premier arrondissement que les choses allaient s'améliorer.
Donc,
j'ai rien promis. Attendez, les investisseurs,
oui.
Ils sont venus visiter. Il y avait le marché de la misère, il y avait tout. Que les choses s'améliorent, c'est bien pour Marseille, et tant mieux si c'est bien aussi pour des investisseurs. Ça me paraît être un cercle vertueux, mais enfin, c'est pas eux
donc
qui déclenchent notre envie.
Donc, il n'y a pas d'échéancier pour enlever ce marché de la misère, comme vous
non,
dites.
Non, mais le marché de la misère, je vous assure, la semaine, il n'y est plus.
Les travaux,
vraiment,
les travaux démarrent, il y a un échéancier.
Il y a la police est sur place. De ce fait, moi, vraiment, permettez-moi, en plus de saluer, de féliciter, parce qu'au moins là, c'est un micro public, donc ça me permet de le faire officiellement. Mais les forces de police autour de Pierre-Marie Bourniquel, autour du commissaire Brugère, autour du commissaire Longuet, autour de la brigade des VTT, le brigadier Passe aussi, ils font un travail remarquable. Et ils ont créé un groupe d'intervention spécialisé sur Noailles. semaines. Et ça marche tellement bien que je leur ai demandé d'étendre les choses et de pouvoir venir un peu travailler particulièrement sur le haut du premier arrondissement où là, il y a d'autres problèmes de sécurité.
Alors, on reste sur la Canebière, on passe sur un autre dossier et on s'approche de ce qui est le cœur de votre délégation, la culture. Hein. Vous parliez de l'ambition culturelle que vous avez pour ce quartier, mais aussi au-delà, ce fameux cinéma en haut de la Canebière. On a l'impression un peu que les Marseillais, là, on a perdu du temps pour des raisons un peu politiques, c'est-à-dire que Mennucci avait été allé chercher le MK2. On a l'impression que, bon, voilà, c'était peut-être pas très bien que Mennucci ait réussi ce truc-là.
Quel dommage.
Ça s'est pas fait. Maintenant, c'est Arplex, hein, c'est ça? Oui. Il va se faire ce cinéma dans 10 ans, 5 ans.
Et moi, je pousse. Non, mais j'espère pas du tout que ce soit une échéance de 10 ans. 5 ans, j'espère pas non plus. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que tout le monde convient qu'un cinéma à cet endroit, ça serait effectivement un équipement culturel supplémentaire qui aurait du sens dans cette Canebière dont je vous décrivais qu'elle est et qu'elle doit être confirmée comme l'artère culturelle et patrimoniale de Marseille et de bien au-delà. Et ce cinéma, on en a parlé depuis longtemps, certes on a perdu du temps, mais c'est pas politique contrairement à ce qu'on croit. Parce que le projet qui a été porté d'abord par MK2, et c'est vrai que c'est Patrick Mennucci qui l'a proposé, ce projet d'MK2, mais l'idée du cinéma était déjà dans les tiroirs. Mais en l'occurrence, il a pu connaître ces personnes.
Enfin, je rappelle et il les a fait venir à Marseille. Cinéma, hein. Il y avait
oui,
déjà
bien sûr, mais dans les j'entends parler de ce cinéma depuis que je suis élu, moi, depuis 2001. Donc c'est pour ça, me donnez pas encore 10 ans, parce que ce sont des échelles qui sont insupportables, je vous assure, même pour les élus, de ne pas pouvoir avoir des réalisations qui se font plus vite. Donc là, j'espère que ça va se faire plus vite. Parce que MK2 fait une proposition de venir investir à Marseille. Le maire de Marseille l'accepte. Jean-Claude Gaudin était d'accord. Vous n'avez aucune déclaration de Jean-Claude Gaudin qui dit « Je ne suis pas d'accord pour qu'il y ait un cinéma à cet endroit-là ». On va plus loin. Le permis de construire qui est déposé, il dépasse de je ne sais plus combien de mètres le PLU. C'est pas possible. L'architecte des bâtiments de France est pas du tout d'accord par rapport à la forme architecturale du projet de MK2. Et donc, on leur demande, à ce moment-là, de faire une autre proposition urbanistique qui soit plus en accord avec l'environnement. Bref, puisque à ce moment-là, il y a un cahier des charges précis de l'architecte des bâtiments de France. Plus jamais, aucune proposition n'a été faite par MK2. Et ben, c'est pas politique, ça. Aujourd'hui, il y a une autre société qui fait une proposition, qui répond à une attente politique là, qui est un peu différente, parce que le cinéma, 14 salles de M. Mennucci, il n'était pas rentable. Nous, ce n'est pas un cinéma que l'on souhaite, c'est un pôle culturel, c'est-à-dire un cinéma d'art et d'essai, de grand public, un lieu de vie culturel avec des boutiques, librairies, avec un bar à vin, je sais pas, enfin voilà, des petits troquets où on peut venir s'installer et apprécier son temps là-bas, et une salle d'exposition. Et on a même demandé, parce qu'on est allé loin, enfin déjà on a avancé sur le projet, et là pour l'idée qui se dessine, c'est une grande verrière, parce que le lieu doit être ouvert sur son environnement, donc des terrasses qui sont autour, une grande verrière d'où les coursives qui supporteront des expositions, eh bien, elles puissent être vues de l'extérieur pour donner envie aux gens de rentrer à l'intérieur. Enfin, voilà, c'est aussi ça, la culture, c'est aller chercher tous les publics.
Dans moins de 5 ans, vous prenez un risque, là.
Je ne le dis pas. C'est pas vrai. Je l'espère. Mais malheureusement,
on est entre 5 et 10 ans, alors. On est à 8.
Non, je sais pas. Non, j'espère très sincèrement que ça pourra se faire. Je vous dirai exactement les choses, puisque nous travaillons là sur le dossier, sur sa faisabilité. On me dit, après je ne suis pas technicienne, je ne suis pas juriste, que tous les éléments seront réunis pour qu'on ait une bonne vision avant la fin de l'année 2015.
D'accord.
Voilà, donc moi si vous voulez, l'année prochaine, je vous reparle du cinéma avec peut-être un peu plus de détails sur les termes.
Juste un détail et une demande de certains habitants de la Canebière, on saute de Noailles, on va vers Belzunce, et il y avait un problème, il y a toujours un problème, c'est celui de la mosquée, de certaines mosquées qui débordent.
On a une qui a fermé.
Qui débordent les vendredis, il y en a une qui a fermé vers Camille Pelletan là-haut. Donc les gens se sentent un petit peu à l'étroit. Est-ce qu'il est envisageable de voir la construction d'une mosquée importante dans le premier arrondissement.
Mais où vous la verriez, cette mosquée?
Ah, moi, je ne vois rien du tout, je vous demande.
Non, mais le premier arrondissement est dense. Moi, je vais vous dire, quand je suis arrivée avec Dominique Thian, pendant la campagne électorale, on avait fait le constat qu'il y avait beaucoup de jeunes dehors qui jouaient dans la rue et que la cohabitation avec les habitants, avec les commerçants, n'était pas facile. On s'est dit, il faut absolument trouver une aire de jeu, de respiration pour ces jeunes dans ce quartier. Et on va faire un stade, parce qu'ils jouent au foot, ils aiment ça. Donc, on va faire un stade. Et donc, nous avons cherché un site pour construire un stade. Nous l'avons trouvé. Et je peux vous dire que le premier arrondissement est extrêmement dense, que les rues sont petites, que les immeubles sont tout serrés, qu'il n'y a pas beaucoup de place pour imaginer la construction de quoi que ce soit.
Donc,
et
pas
que même
mosquée.
Pour un stade, mais pas de mosquée, pas d'autre chose, j'en sais rien. Enfin, en tout cas, de quelque chose de construit. Parce que nous avons trouvé un lieu pour créer ce stade, City, parce qu'on n'a pas arrivé à trouver plus qu'un City Stade, et il sera ouvert en septembre 2015. C'est un des premiers dossiers.
Ça sera où, pour les auditeurs, oui.
Ça sera Ilo Corsec.
Ilo Corsec.
Nous avons fait arrêter un programme immobilier pour construire ce stade. Hein. Voilà, et ça n'a pas été facile, là encore, sur des questions de réglementation urbanistique, parce qu'on pourrait en parler un jour. Tout le monde dit on construit, mais quand on veut un peu délester, vous avez des règles urbanistiques qui vous obligent à rallier des bâtiments les uns aux autres, à ne pas faire de trous, pas de dents creuses. Enfin bref, en tout cas, il y aura un stade dans le premier. En revanche, la mosquée, même si... Je sais qu'il y a des associations qui auraient envie d'en créer une, qui ont les moyens de le faire. En tout cas, ça ne sera pas par la construction que ça pourra passer. Ça m'étonnerait. Après, ils trouveront certainement un lieu pour s'installer. Mais la construction, il n'y a pas de place dans le premier arrondissement.
Vous dites qu'il valait mieux faire un stade qu'une mosquée.
Ah oui, je le dis.
Oui, voilà.
Oui,
non,
bien sûr.
C'est dit,
dis oui. Moi, excusez-moi, je suis laïque, je ne m'occupe pas de religion. Je m'occupe particulièrement...
Vous occupez des espaces publics. Quand il y a des gens qui sont dans l'espace public pour prier, en l'occurrence dans la rue, ça vous gêne en tant que maire de secteur?
Oui, ça me gêne, mais j'en ai pas vu. Non, j'en ai pas vu.
Écoutez, c'est à mon tour de vous faire visiter alors le premier secteur, et
allez,
notamment le vendredi.
Ah bah oui, allons-y ensemble.
Bon, on va vous laisser promener. Je reviens à la culture. On s'éloigne de la Canebière. Donc, vous avez ce portefeuille. Tout à l'heure, je le disais dans le portrait de façon un peu satirique. On est dans l'après-année culturelle. Vous avez effectivement suivi les questions de l'emploi. On espérait beaucoup d'effets. Il y a beaucoup de difficultés hein, chez les artistes, les compagnies locales. Et c'est après 2013 et pas forcément très facile pour le secteur culturel. Ce dossier, vous allez aussi vous en occuper à l'échelle du département. Voilà, alors déjà sur l'après-année 2013 de la culture, et je ne parle pas de l'impact économique ou sur le dynamisme touristique, je parle pour les artistes. Est-ce que vous êtes un peu déçu des effets ou ça, comment répondre à ces attentes?
Le monde de la culture, je sais, regrette ou ressent qu'il n'a pas été assez associé à l'événement Marseille, capitale de la culture. Je l'entends. Je n'en sais rien réellement à titre personnel, mais je l'entends et si c'est ressenti comme ça, c'est donc la vérité qui s'impose. Pour autant, la culture à Marseille, depuis des années maintenant, est devenue une véritable filière de création, d'activité également, qui s'est composée autour de grands projets. Nous sommes ici au cœur de la friche de la Belle de Mai, donc c'est l'illustration exemplaire des projets culture qui ont abouti dans le bon sens et qui structure aujourd'hui un véritable monde culturel à Marseille. Et je pense que les choses vont plutôt dans le bon sens. Alors je comprends qu'il y ait encore des difficultés, que ça ne soit pas facile, que dans chacune des collectivités au niveau national, il y a de moins en moins d'argent public, donc il y en a forcément moins pour la culture, qui est forcément un secteur plus fragile quand il y a moins d'argent public, que c'est un secteur qui vit beaucoup de la part de l'argent public.
Je rappelle pour les auditeurs que le département, c'est moins 35 millions de recettes.
Oui. Et d'ailleurs, je regardais le budget culture du département qui n'a cessé de diminuer depuis ces trois dernières années.
Hein. Mmh. Et voilà, Martine Vassal, vous allez faire entendre qu'il faut
stopper cette diminution, augmenter le budget culture?
Est-ce que je lui ai déjà fait entendre qu'il fallait stopper cette diminution. Après, il faut être réaliste. Nous prenons le département au mois de mars. Et les orientations budgétaires, c'est la première semaine d'avril. Nous, on est élus le dernier week-end de mars. Donc, les budgets, ils sont aujourd'hui ceux qui avaient été prévus déjà par
avril,
les services.
Le vote du budget, c'est le
29
avril.
Mais les orientations budgétaires, elles sont données. Donc, moi, j'en ai discuté avec Martine Vassal. Elle a dit, et j'ai apprécié d'ailleurs dans son discours de présentation des orientations budgétaires, que la culture ne serait pas comme d'habitude le secteur sacrifié, et que pour l'heure, je peux assurer que le département ne baissera pas le volume budgétaire alloué à la culture. Je regrette qu'il ait été diminué depuis ces quelques années. Aujourd'hui, il reste moins d'argent. C'est encore 1 million de moins cette année que l'année dernière.
Certains commentateurs, dont nous, leur avis, ont pensé qu'une partie des difficultés de la mise en place de la capitale culturelle s'est expliquée aussi par le jeu politique, la difficulté de faire parfois cohabiter toutes ces institutions et ce fameux millefeuille territorial. On arrive aussi à travers le dossier culture à cette problématique de Marseille, sa métropole, le département. Est-ce que la nouvelle donne politique, le fait que maintenant l'agglo, la mairie et le département sont dans le même camp politique, va faciliter l'avancée d'un certain nombre de dossiers, et y compris des dossiers que vous pouvez porter avec votre délégation?
Je pense que oui, de fait, mais ça ne me satisfait pas. Parce que, parce que ça me satisfait, parce que ça va être plus pratique, et j'espère que les porteurs de projets y gagneront du temps et de l'énergie, qu'ils pourront au moins déployer ailleurs. Parce que à chaque fois que vous devez présenter un projet, il faut aller voir toutes les institutions, tous les services, tous les chargés de mission, tous les élus. Enfin bon, ça fait beaucoup de choses tout ça, et qu'effectivement aujourd'hui, on va pouvoir travailler un peu plus vite. Pour autant, c'est ce qu'il faut se poser comme question. C'est l'intérêt de ce millefeuille administratif, d'avoir des compétences qui soient si croisées, si partagées. La question effectivement de la structuration administrative des territoires, elle se pose aujourd'hui en France, et il ne faut pas l'oublier. Alors oui, ça va faciliter la tâche, donc on va prendre les choses dans le bon sens. Il ne faut pas non plus fermer les yeux sur la nécessité peut-être de refondre nos territoires, sur le plan administratif et politique, bien sûr.
Pour le moins, il y a une grande réticence d'un certain nombre de maires des Bouches-du-Rhône vis-à-vis de l'émergence de cette métropole marseillaise. Mmh. Il y a une méfiance aussi vis-à-vis d'un certain nombre d'élus marseillais, et toujours de ce pouvoir central de Marseille. Vous êtes une élue marseillaise, est-ce que...
grande métropole.
Est-ce que vous allez jusqu'à dire que peut-être il faudrait faire disparaître ce département, l'assimiler dans une grande métropole? Est-ce que c'est ça le bonneteau?
Non, c'est pas ça. L'élargissement. Oui, je viens d'être élu. Mais vous savez, ce n'est pas une question personnelle. Parce que quand vous venez d'être élu quelque part, ce qui avait été prévu, c'est que du coup, les élus départementaux, ils deviennent des élus d'autre chose. Donc voilà, ce n'est pas la question des élus. Pour le coup, les députés, ils n'avaient pas non plus supprimé beaucoup de strates d'élus. Ce n'est pas ça la question. C'est les strates de décision, et c'est l'échelon de nos territoires. Quelle est la bonne échelle pour les territoires? Est-ce qu'on peut continuer à opposer des mairies de secteur avec des communes alentours, avec des entités qui se croisent? Quelle est la bonne échelle? Est-ce qu'on peut rivaliser avec l'Allemagne, avec l'Espagne même, les grandes régions qui nous sont des régions voisines? Et je ne vais pas plus loin, parce que je pourrais traverser l'Atlantique et aller encore plus loin. Le bon échelon aujourd'hui, l'échelon pertinent, celui qui permettra de créer des emplois, parce qu'il permettra d'avoir un véritable développement économique. Ce n'est pas l'échelon d'une ville, même pas si la ville de Marseille, qui est une si grande belle ville, c'est un échelon qui est plus grand, donc à minima l'échelon du département, mais qui est bien dépassé, donc celui de la métropole, mais qui aurait vocation à terme à s'agrandir.
Et vous comprenez la réticence des élus ?
Bien sûr, c'est pas dans la culture locale. La France est 36 000 communes. Tout le monde se demande comment il enfin, pourra
en
continuer
même temps, tout le monde
à prendre des décisions.
Il y a qu'à Marseille, il y a une espèce de singularité où une... on hésite un peu.
Oui, je crois que c'est l'héritage, c'est le poids de l'histoire, tout ça, avec une réticence très forte, d'abord dans les allées de fer et ensuite de l'élargissement des frontières de la ville de Marseille. Et on avait peur de mutualiser. Alors Marseille fait peur aux petites communes
et à l'époque Aix-en-Provence par exemple
aux moyennes, mais à l'époque aussi c'était les petites communes autour qui faisaient peur aux socialistes qui étaient Marseille intramuros et qui voulaient pas s'allier avec les communistes. Donc c'est le fruit de la politique tout ça, et aujourd'hui il faut en sortir, et c'est une nouvelle, moi je crois que la nouvelle génération d'élus n'est pas marquée par ce fruit de l'histoire. Et donc, le connaît, bien évidemment, c'est notre héritage culturel, mais pour autant, tout le monde voit l'avenir aujourd'hui. Et l'avenir, c'est une plus grande échelle, et c'est donc la métropole. On verra bien comment elle se gère. Petit à petit, ça se fera.
Votre famille politique, donc à la mairie, l'aglo, le département, est-ce que, du coup, il n'y a pas une difficulté, en tout cas une très très grande responsabilité sur l'épaule de cette famille politique ? Vous ne pouvez plus dire maintenant, si tel dossier n'avance pas, c'est parce qu'il y a Jean-Noël Guérini qui bloque, etc., pour des raisons ceci, cela. Là, vous avez les cartes en main. Je veux dire, la métropole, vous pouvez décider d'appuyer sur l'accélérateur ou
attendez,
sur le frein.
Alors, la métropole, d'abord, elle va se faire, elle sera effective en 2016. 2016, la métropole, là. Donc, il y aura donc la constitution des équipes de la métropole. Et effectivement, la cohérence politique devrait accélérer, avoir un effet accélérateur pour aller plus loin dans les dossiers. Mais il y a quand même une phase de mise en place. Et on ne pourra pas la négliger, cette phase de mise en place. Parce que si on veut réussir à l'avenir, il faudra poser les fondamentaux de la gouvernance autrement que ceux qui sont décrits dans les textes. Parce qu'il y a toujours les textes, et puis après, il y a toujours la manière dont on travaille, dont on répartit les pouvoirs, dont les confiances se créent, enfin voilà. Et ça, pour l'instant, c'est plus de la politique que du dossier.
Est-ce que le gouvernement veut aller trop vite sur ce dossier, ou est-ce que vous pensez qu'il y a une vraie chance pour Marseille, pour désenclaver la ville, ville-centre, qui porte les charges de centralité, Jean-Claude Godin l'a rappelé
pendant
des années.
Je ne crois pas que ce soit juste une chance pour Marseille, je suis convaincue que c'est une chance pour l'ensemble de notre territoire. Voilà, la Provence. Au sens large.
Il va falloir faire œuvre de pédagogie, y compris dans votre famille politique.
Ça, c'est important.
Dehors des frontières marseillaises.
Oui, mais c'est normal. Oui, j'en suis consciente, bien sûr.
Un dernier dossier avant d'arrêter l'émission, puisqu'on arrive presque au terme. La fiscalité, beaucoup de Marseillais se plaignent. Jean-Claude Godin a été élu en disant que les impôts n'augmenteraient pas. Patatrac, résultat, 5% d'augmentation, 4,9%. Comment vous justifiez ça ?
Jean-Claude Godin a dit que les impôts n'augmenteraient pas, toute charge égale par ailleurs. La réalité, c'est que depuis l'État se décharge sur les collectivités territoriales, ils l'ont beaucoup reproché à Nicolas Sarkozy. Vous voyez, moi je vais être honnête, Nicolas Sarkozy l'a fait aussi, de décharger des compétences de l'État sur les collectivités territoriales sans donner exactement la compensation financière. Et il a été beaucoup critiqué, et le programme présidentiel de François Hollande a clairement dit le contraire. Lui, il ne devait plus le faire. Donc moi, je comprends que les gens soient désabusés, parce qu'aujourd'hui, nous sommes passés à un niveau où les dépenses publiques avaient été contenues. Aujourd'hui, elles sont augmentées, elles portent de plus en plus sur les collectivités locales, malgré les promesses de campagne présidentielle. Et à un moment donné, même quand on ne veut pas augmenter les impôts, et que vous devez payer les rythmes scolaires, les baisses de dotations...
C'est 20 millions d'euros.
Oui, c'est déjà beaucoup. Il y a les rythmes scolaires, il y a la baisse de la dotation globale de l'État.
Ça fait 40.
Vous avez également, je ne me souviens plus exactement comment ça s'appelle, mais c'est les points de la fonction publique qui alourdissent aussi, par leur changement, les budgets de l'ensemble des collectivités locales. Marseille est une ville pauvre, on le sait. Elle se tient bien d'ailleurs, hein, pour être à son niveau de fiscalité, c'est-à-dire qu'il y a un ménage sur deux qui ne paie pas d'impôts à Marseille.
Donc, il a fallu. On a dépassé le cap des 2 milliards d'endettement pour la ville. Hein.
Oui, mais c'est comment vous faites des projets sans être endetté? Et encore que je trouve que les différents les investisseurs privés viennent beaucoup.
Est-ce qu'on touche
et c'est
pas
le gage
là,
de les attirer que de faire
des choix politiques. Attendez, oui. Parce que vous vous dites oui, il y a des dépenses.
Oui, il y a des dépenses parce qu'il y a des investissements.
Il y a aussi des choix politiques. Oui. Quand on voit cette espèce de stade qui a coûté 267 millions
un
d'euros.
Un objet monde pour Marseille, c'est magnifique, le stade Vélodrome.
Ben, les Marseillais vont apprécier. D'ailleurs, ils apprécient d'année en année parce que c'est 11 millions d'euros. Jusqu'en 2044, à payer
oui,
chaque année.
Oui, mais alors
année.
C'est pondéré, c'est un peu plus compliqué que ça, c'est pondéré en fonction
ah,
des résultats.
Ils peuvent pondérer 5% d'augmentation d'impôts et en même temps, ils donnent 11 millions.
Ça n'a rien
millions.
À voir avec le stade.
Non,
ça,
mais
c'est
Sabine
un raccourci. Ça, c'est un raccourci.
C'est pas un raccourci.
Non,
il y
on
ne
peut pas
chiffres.
Dire le stade coûte
mathématique.
Cher et du coup, on a augmenté les impôts parce que ce n'est pas vrai.
Non.
Et le stade, il rapporte combien à Marseille? On a fait un juif aux commerçants, dans l'image, dans il rapporte certainement beaucoup plus que ce qu'on peut dire.
Le stade rapporte plus de 11 millions d'euros
non,
à donner chaque année.
Je parle qu'il y a des effets induits du stade au-delà de l'image.
Est-ce que c'est pas ça qui fait peur finalement
les
autres collectivités?
À Marseille, au stade, c'est connu dans le monde entier, le stade Vélodrome.
Aux autres maires des autres collectivités qui hésitent à s'engager dans cette espèce de
grande métropole. Les autres maires, c'est les premiers à venir au stade voir des matchs.
En se disant que finalement, les choix politiques sont un peu légers à Marseille, non? Parce qu'on
mais
a vu
léger,
le palais,
c'est lourd,
le palais
non
de la,
déjà combien ça a coûté,
le palais
c'est très
de
lourd.
La glisse et de la glace qui coûte très cher et qui est pas rentable.
Ouais, la deuxième ville de France, il faut
choix,
aussi des grands équipements.
Le choix
enfin, quand
de
même,
ce stade qui coûte très cher, qui a été pointé du doigt par la Chambre régionale des comptes.
Ouais,
est-ce
pour
que
le PPP,
veut...
pour le PPP, pas pour le prix, pour est-ce le montage.
Que, est-ce que finalement, c'est pas les choix politiques qui font hésiter?
Alors ça, c'est toute la vision de Marseille. Qu'est-ce que vous voulez? Il peut y avoir plusieurs visions. Soit on a une vision ambitieuse de la deuxième ville de France qui soit développée, qui doit donc présenter, contenir des équipements publics qui sont de grande envergure à la hauteur d'une capitale régionale. Et bien pour ça, ça coûte de l'argent, c'est de l'investissement, mais c'est aussi la ville qui grandit, qui franchit des échelons, qui rayonne de plus en plus fort, une ville qui est de plus en plus attractive avec des touristes qui arrivent de partout, enfin bref, qui plaît absolument à tout le monde, Marseille, parce que c'est que les Marseillais sont plus critiques avec Marseille que les gens de l'extérieur. Donc c'est une ville qui attire et qui rayonne. Et pour ça, il faut des gros investissements. Sinon, c'est plus la même ville, c'est plus la même ambition. Et du coup, c'est peut-être effectivement des visions politiques différentes.
Michel, l'émission se termine bientôt. Juste une réaction, on connaît vos liens avec Dominique Thien, on les a rappelés. Il a une petite casserole là, derrière lui, la Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique qui saisit le parquet de Paris parce qu'il aurait dissimulé un compte en Suisse avec...
1,5 million d'euros.
Voilà, oui. un hôtel.
J'ai vu ça.
Une réaction là-dessus
Bon, une réaction, très sincèrement, je connais bien Dominique Thien, mais j'ai une confiance absolue en lui au regard de ce qu'il peut déclarer. Moi, ce qui me chagrine là-dedans, c'est que Dominique Thien, il a toujours tenu, il fait partie de ces élus rares qui ont toujours tenu à gérer en parallèle une vie professionnelle et un engagement politique qui est très fort, parce que vous regarderez que c'est un des députés les plus actifs à l'Assemblée. Il y passe ses nuits,
il y passe beaucoup de
temps.
Il fait des lois assez critiques, assez dures, notamment sur les bénéficiaires du RSA, sur la triche
bon,
possible.
Bah, sur sa ligne politique.
En même temps,
c'est
quelqu'un
une politique.
Dont on s'aperçoit qu'il a dissimulé 1,5 million d'euros.
D'abord, on ne s'aperçoit pas qu'il est.
Si,
qu'il
si,
a
puisqu'il a régularisé. Si on régularise, ça veut dire qu'on ne l'avait pas fait avant.
Non. Il a pas régularisé. C'est pas comme ça qu'il faut dire les choses, parce qu'on dirait que parce qu'il a été pris pour quelque chose, il aurait régularisé. Non, il s'est adapté aux règles. Il est plutôt transparent, Dominique Thien, sur ces questions-là. Et d'ailleurs, je pense que l'avenir le dira. Et moi, j'ai entièrement confiance en lui parce que je le vois travailler. Je vois comment il est précis, comment justement il est attaché à garder à la fois une vie professionnelle à côté de sa vie politique. Donc, écoutez, on verra bien ce qu'il adviendra de cette histoire.
On avait reçu Dominique Thien ici, on lui avait posé la question de savoir s'il payait l'ISF. Il nous a dit, oui, on paye l'ISF. Ah
ouais, c'est quelqu'un de transparent, hein,
Sabine
Dominique Thien.
Vous payez l'ISF?
Non, je ne paye pas l'ISF, non.
Michel Garot.
Juste un mot sur le RAVI, on ne paye pas l'ISF non plus. Vous savez, journal en redressement judiciaire, on redresse les bras, c'est le mensuel qui ne les baisse jamais. Et maintenant, il les redresse juste pour les auditeurs. On continue notre bataille pour faire vivre ce journal. Il y a un couscous bang-bang royal avec une mobilisation, 600 déjà nouveaux abonnés pour ce journal. On a besoin de vous, continuez à vous abonner. On a un rendez-vous au tribunal administratif, ça sera le 12 mai, avec l'objectif de gagner encore 6 mois de plus pour poursuivre cette bataille de redressement. Et donc un appel aux auditeurs de Radio Grenouille pour aller sur le www.leravis.org et continuer à nous accompagner.
Je rappelle qu'on peut s'abonner en ligne.
La mairie de secteur est abonnée.
Oui.
c'est notre petit geste.
Maintenant que vous êtes conseillère générale, vous pouvez également vous abonner au conseil général.
Peut-être que ça va changer, en
ce
effet.
Ce qui n'était pas le cas avec Jean-Noël Guérini, je crois. Sabine Bernasconi, mille merci.
Merci à vous.
On se retrouve le mois prochain avec un tout autre invité. Bye.